Chers amis, je voudrais prolonger la réflexion, la méditation de la parole concernant Jésus ressuscité. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 18, voici ce que Apollos dit aux chrétiens. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût plus adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible, impressionnant, que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous, cela s'adresse donc aux chrétiens, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins nous échapperons, nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, chers amis, nous sommes appelés à recevoir un royaume inébranlable dans notre vie par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes branchés sur un événement fondamental, l'ébranlement des choses, le changement des choses ébranlées, qui tiennent encore pour un temps, mais qui vont laisser place à la cité du Dieu vivant sur terre, la venue de la Jérusalem céleste. Pensez à Apocalypse chapitre 1 et 2, 21 et 22. Cependant, nous allons d'abord aller voir ce qui s'est passé avec Moïse dans la montagne. Dans Deutéronome, chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde éternelle en disant, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Donc, nous voyons que, bien sûr, Dieu s'irrite contre Moïse et ne va pas accepter qu'il vienne sur la terre promise. Un peu plus loin, il est mis ceci dans Deutéronome chapitre 4, verset 24. « L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc, cette expression que nous retrouvons dans Hébreux 12. Donc il y a une jonction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Inévitablement, pour la parole, pour la Bible, c'est le même Dieu. Mais comment se fait-il que Moïse, quelque part, cherche à dire « c'est à cause de vous que Dieu s'est fâché contre moi » et que Dieu, lui n'accepte pas cette parole, ne me parle plus de cette affaire? Bien, c'est un petit peu comme Adam et Ève qui reprochaient à l'autre quelque chose, et puis au serpent, les excuses sont faites pour s'en servir. Et évidemment, là n'est pas le sujet devant Dieu. On ne peut pas se permettre ce luxe. Nous voyons dans le psaume 106 que, au verset 32, ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba, évidemment. Moïse a en cela raison, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Donc nous voyons bien que Oui, de manière indirecte, le peuple est fautif, mais de manière directe et première, Moïse est fautif. Il est le responsable de la sanction que Dieu lui inflige, parce qu'il a accepté d'avoir un cœur aigri. Il a accepté d'avoir un cœur qui s'exprime légèrement contre un peuple que Dieu aime. Et donc, Moïse a montré qu'il était charnel. De la même façon, lorsque nous voyons qu'il répudie Séphora et qu'il prend une femme égyptienne, Nombre chapitre 12, verset 1, nous voyons que Moïse cède parfois à l'amertume et ne se repose plus sur Dieu. Il s'aigrit et il rejette les personnes qu'il aime. Vous pouvez comprendre que Moïse est un homme et n'est pas pleinement habité de l'Esprit-Saint comme Christ, et qu'il ne peut pas surmonter l'épreuve aussi facilement que Christ l'a fait. Christ, grâce à la puissance de la vérité, qui est sa personne même, grâce à l'Esprit-Saint, dont il est investi complètement, sans mesure, il peut se maîtriser devant la faiblesse de l'homme. Il est capable de comprendre notre faiblesse, d'y compatir, et il méprise le péché. Il ne va pas céder au péché, il ne va pas tomber dans cette tentation de s'en prendre au pécheur. Bien sûr, Jésus est un souverain sacrificateur, Hébreux chapitre 2, verset 17, semblable en toutes choses à ses frères, mais c'est un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle en service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, Jésus est réellement capable de miséricorde et peut exercer son secours divin envers le pécheur. Pourquoi ? Parce que dans Hébreux, chapitre 3, verset 6, Christ l'est, donc serviteur de Dieu, comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, Jésus a un statut de fils. De fils. Tandis que Moïse ne l'avait pas. Moïse était serviteur. Jésus est bien sûr serviteur, mais il est en même temps le fils serviteur. Ou le serviteur fils. Sur la maison qui lui appartient. Il est le propriétaire de la maison. De ces personnes que le Père lui a données pour sauver par son sang. Donc, Jésus a le pouvoir de résister au péché et de ne pas se laisser séduire par le péché, alors que Moïse, lui, n'était pas en mesure de résister à tous les péchés. Dans Hébreux chapitre 5, tout souverain prêtre pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc passons à Aaron, ou Lévite, etc. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est donc pas non plus attribué la gloire de devenir souverain prêtre, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, psaume 110, « Tu es sacrificateur, donc prêtre, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc au moment où il a vécu sur terre et qu'il est mort sur la croix, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, pensant à tous ces temps de prière dans la montagne durant la nuit, mais aussi surtout au mont des Oliviers et puis sur la croix, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, Jésus est l'auteur d'un service éternel pour nous. Et il a la possibilité et l'autorité, la puissance pour nous aimer malgré toutes nos iniquités, nos péchés. Dès le moment où quelqu'un se présente à lui, il ne le rejette pas. Dès le moment où le Père l'a envoyé vers lui, et pour qu'il soit sauvé par son sacrifice parfait et par son esprit de sainteté, l'Esprit Saint, Jésus ne refuse jamais la mission. Donc il n'est pas tombé dans le péché de Moïse. Donc, ce qui s'est passé sur la montagne du Sinaï, avec Jésus, et dans le désert pendant 43 ans, ne se reproduit pas. Il n'y a pas d'amertume en Jésus à l'égard du pécheur. Il n'y a que de l'amour et une autorité de pardon. Et une puissance de miséricorde indéfinie, infinie. Donc, dans Hébreux chapitre 12, verset 22, lorsque Apollos nous dit que nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est médiateur d'une nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, nous sommes dans une nouveauté absolue. Ce Jésus ressuscité, Jésus de Nazareth, inaugure un nouveau temps. Un temps où nous sommes approchés déjà, par la foi, de la montagne de Sion. Où se trouve cette montagne de Sion dans l'Apocalypse? Eh bien, nous allons voir que c'est dans le chapitre 21. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, donc la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Donc, nous pouvons comprendre les paroles que Jésus a affirmées à la Samaritaine, en disant, « Si tu savais le don de Dieu, tu me demanderais toi-même à boire, et tu n'auras plus jamais soif. » Il s'agit donc de la vie éternelle, et de cette vie dans la Jérusalem céleste descendue sur terre. Quand Jésus a pris à ses disciples à prier, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il est évident que ce n'était pas une parole en l'air, un souhait, c'est en fait un programme qui trouve son accomplissement. Et déjà spirituellement, nous sommes prêts, même si nous ne le voyons pas, la grande montagne de Jérusalem est en train d'être préparée par Dieu pour recevoir la nouvelle Jérusalem, pour recevoir les saints du ciel. Alors, puisque les premiers-nés, les premiers inscrits dans le ciel et les anges, les myriades d'anges dont parle Apollos, dans Hébreux 12, nous pouvons trouver dans Apocalypse, au chapitre 3, au chapitre 4 et au chapitre 5, la description de ce monde céleste qui viendra s'installer sur terre. Il n'y aura plus de séparation entre le ciel et la terre, il n'y aura plus qu'une seule réalité. Voici, dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, donc les prophètes de l'Ancien et Nouveau Testament, revêtus de vêtements blancs, donc sauvés, saints, couverts de leurs œuvres saintes, et celles de Christ surtout, et sur leur tête des couronnes d'or, donc signe de la victoire spirituelle en Christ. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, mais non pas pour menacer et pour tuer, avec le risque d'être détruit, comme sur le Sinaï, mais simplement pour ici manifester la grandeur de Dieu. Et sa magnanimité, sa miséricorde exécutée par Jésus au sacrifice sanglant sur la croix. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont et cet esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Il y a encore dans le trône, devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Donc un immense vasque dans lequel se trouve une eau pure et une vasque transparente, alors que celle qui était dans le temple était en airain, était opaque, et on prenait de l'eau, bien sûr, qu'on amenait dans des cruches pour remplir cette mer, cette vasque immense, afin de laver l'autel, laver le Saint des Saints, l'endroit où en tout cas on faisait les sacrifices. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière, donc les archanges. Et bien sûr, ils se prosternent et ils louent, ils adorent Dieu. Au verset 8, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui vient, participe présent, venant. Donc c'est le Dieu venant, le Dieu Jésus-Christ venant, s'approchant. Lorsque donc par la foi nous acceptons Jésus, nous nous approchons de la Jérusalem céleste, mais quelqu'un vient à notre rencontre. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que la Bible se termine par Maranatha, bien Seigneur Jésus. Ensuite, les 24 vieillards se prosternent et prient aussi. Et donc, au verset 10 et 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qui ont été créées. » Chapitre 5, nous voyons bien sûr l'agneau immolé, le rejeton de David, au verset 5. Au verset 6, et puis les myriades dont parle Hébreux 12, et qui sont au verset 11 et 12, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants, donc les archanges, disaient « Amen. » Et les vieillards, donc les prophètes, auprès de Dieu, se prosternèrent et adorèrent. Donc, nous rejoignons en plein, bien sûr, l'affirmation de Hébreux 12. Donc, Jésus ressuscité a ouvert une possibilité énorme à un nouveau peuple, le peuple de la foi dans le sacrifice de l'agneau, le peuple de la foi dans le sacrifice et le don du Saint-Esprit, et le sacrifice de l'agneau qui est la source du don du Saint-Esprit pour ceux qui croient, pour ceux qui sont appelés. Donc nous avons dans Jésus, un monde tout à fait nouveau. Et si nous prenons Romains chapitre 8, nous voyons que, verset 1 et suivant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc qui croient en lui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, sous l'autorité du péché, et bien sûr, la loi qui nous révèle le péché et la condamnation, cette mort, cette séparation de Dieu, non, nous sommes autre part. Nous avons reçu l'esprit de vie en Jésus-Christ. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ce qui m'importe dans la prédication présente, c'est de savoir que le chrétien doit marcher dans l'esprit et est appelé à marcher selon l'esprit. Il n'y a pas de chrétien par la raison, par la cérébralité, ou parce que papa et maman lui ont appris à être chrétien, ou parce qu'il a entendu un message chrétien. Il n'y a pas de chrétien qui soit par la chair devenu chrétien. Au verset 14, Romains 8, « Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc, il est clair que l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, vient de Christ, est un don de Dieu. Nous devons absolument comprendre qu'une Église doit être travaillée par l'Esprit Saint. Une Église doit recevoir non seulement un enseignement et transmettre un enseignement, une famille chrétienne doit donner un enseignement et en recevoir un, mais en plus recevoir une révélation. Recevoir en elle un acte de Dieu, un ouvrage de Dieu qui fait de cette famille, de cette église, de chaque personne, un être nouveau, un être transformé, dirigé par Dieu. Il n'y a pas donc, en principe, pour Dieu, de chrétiens charnels au ciel. Il n'y a que des chrétiens spirituels, agis par l'Esprit Saint, habités par l'Esprit Saint, scellés par l'Esprit Saint. Alors, voyons ce que dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit, verset 28 et suivant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset qui est facilement, qui est très agréable. Si nous aimons Dieu, eh bien, tout concourt à notre bien. Mais pour aimer Dieu, il faut aller voir Romains chapitre 5, verset 5. C'est l'Esprit Saint qui a été répandu dans notre cœur pour que l'amour de Dieu jaillisse en nous, opère en nous et soit fidèlement à l'œuvre en nous. Donc, tout ce verset 8, 28 repose sur Romains 5, 5, sur cette affirmation qu'il faut un miracle, une révélation et une nouvelle naissance. Donc, nos églises ont pris beaucoup trop d'habitudes charnelles et nos prédications sont souvent trop charnelles. Et elles plaisent trop souvent à l'oreille, elles flattent la chair. Et ne remettent pas en question ce danger de la chair qui étouffe l'esprit. Lisons, continuons, Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc rendus justes, innocentés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc ici, ce verset est extrêmement important. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est avec Jésus que je me présente devant Dieu. C'est avec Jésus que je reçois cette nouveauté de vie. C'est avec Jésus que je peux tout gérer fidèlement en présence de Dieu. Donc, notre christianisme ne doit pas s'orienter vers des modes. La mode du Saint-Esprit, l'évangile de prospérité, ou Jésus, l'amour de Jésus, etc. Une forme de mysticité. Il faut réellement honorer le Père. Il faut aimer Dieu pour lui-même. Romains 5, 5, l'amour répandu de nos cœurs, l'amour pour Dieu, par le Saint-Esprit. Le vrai chrétien est centré sur Dieu le Père. Les mottes nous décentrent du Père et nous attirent vers des comportements d'apostasie. Lorsque nous sommes centrés sur le Père et que nous avons reçu l'Esprit Saint, nous découvrons la richesse de la personne de Dieu, la personne du Père, du Dieu unique, du Dieu un. Et nous avons, bien sûr, pour venir au secours de notre faiblesse, en nous l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous avons les enseignements de Jésus dans sa parole, dans son évangile. Mais nous sommes, nous chrétiens, centrés sur le Père. Regardons dans Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous sommes vainqueurs sur quoi? Sur ce désamour envers le Père. Depuis Adam et Ève, l'être humain a toujours eu tendance à ne pas reconnaître Dieu comme son Père, et à ne pas l'aimer, ne pas l'adorer, toujours s'égarer, et toujours masquer, déformer Dieu, même dans la chrétienté. Et il faut faire attention, il faut une victoire, il faut être recentré et branché sur Dieu. Comment? Par celui qui nous a aimés. La victoire était d'être avec le Père. Jésus l'a bien dit dans Jean chapitre 14 et chapitre 16, vous n'avez pas encore prié comme il faut. prier mon Père des cieux, prier mon Père en mon nom. Donc Jésus lui-même nous recentre sur Dieu le Père. Romains 8, 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est central. Et il faut être réellement ancré, comme la tour Eiffel est ancrée dans des socles de béton, qui résistent aux tempêtes. Eh bien, il faut être ancré en Dieu. Et comment ? Cet amour qui nous scelle sur le Père, sur Dieu, a été dévoilé, manifesté, révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul moyen pour nous d'être, de connaître comment, par quelle grâce, être rattaché de nouveau à notre Père des cieux. Car le péché depuis Adam et Ève nous en a séparés. Ne plus être orphelin de Dieu, mais être rattaché à Dieu, être réadopté, grâce à l'Esprit du Fils, qui nous amène au Père. Et recevant en nous l'esprit de l'enfant adoptif, qui aime son père adoptif, qui se comporte comme un vrai fils. Donc, il faut faire attention. Dans Romains chapitre 9, au verset 11, nous voyons, en parlant des enfants de Rebecca et d'Isaac, que de l'élection, les enfants, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Donc il y a dans cette phrase quelque chose d'extrêmement important concernant Isaac, Rebecca et Jacob. Il y a, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il ait fait du bien ou du mal, c'est Dieu qui choisit la personne, c'est Dieu qui la sauve par sa propre volonté. Qu'elle ait fait beaucoup ou peu de bien, nous voyons bien que Jésus sur la croix a dit aujourd'hui, tu seras dans mon paradis. Un brigand qui, jusqu'à midi, de 9h à midi, l'insultait avec l'autre, et puis qui a changé d'attitude. Donc, nous voyons que Dieu a dit à Moïse, au chapitre 9, verset 15, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, conclut l'apôtre Paul, « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc, chers amis, nous avons... en Jésus-Christ ressuscité, une œuvre de grâce. C'est pas simplement un modèle, c'est une œuvre de grâce. C'est une œuvre d'autorité venue du Père sur un monde déchu, sur ma vie déchue, sur ma vie dépravée, sur un cœur, un esprit séparé de Dieu. Une œuvre de grâce, c'est-à-dire je suis reconnecté à Dieu, je suis remis en communion de la Sainte Trinité. Je suis remis dans l'adoration envers le Père. Je suis remis dans la relation filiale. Et je reçois un esprit d'adoption, un esprit de fils, qui en moi fait dire « Abba, Père ». Ce qui est, bien sûr, évidemment, qui fait la joie des vrais enfants de Dieu. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, comme à l'époque de Moïse, avec les lois, etc., pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit, donc à notre intelligence, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, Paul a conscience que tout est fait par grâce. C'est pour cela qu'il dit... Dans Romains 8, 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à vanité par Adam, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la liberté de la gloire des enfants de Dieu, exprimée dans Hébreux 12. Nous sommes approchés de cette Sion, cette Jérusalem céleste, ce lieu glorieux de communion avec Dieu, que nous retrouvons dans Ésaïe, bien sûr. Dans Ésaïe, au chapitre 25, chapitre 25 d'Ésaïe. Ce qui est important, c'est de comprendre les conséquences, les fruits de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Sinon, nous nous attachons à un événement pour la Pâque, et puis l'année se passe en oubliant la Pâque, en oubliant ce qui est l'abondance de la grâce à travers la Pâque. Regardons dans Ésaïe 25, verset 6, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, donc à Sion, Jérusalem, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, le vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Donc nous sommes dans l'inconnaissance. Tant que nous ne sommes pas sous la grâce de Christ et dans la révélation, nous sommes dans l'inconnaissance. Un voile est jeté sur nos yeux. 2 Corinthiens chapitre 4, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ne sont pas convertis en Christ, il y a un voile. Ils sont dans l'incapacité de connaître Dieu, d'être en relation avec lui. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort toujours, qui est la conséquence de ce voile, de cette séparation et du péché. Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il vit disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé, en ce jour, on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, celui qui nous sauve. Voilà l'image de la foi. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Donc nous avons vraiment là, vraiment l'expression de ce qu'a voulu dire Ésaïe, au chapitre 25, verset 10, et dans Hébreux chapitre 12. Jésus n'est pas simplement venu pour qu'on ait des beaux films de DVD sur Jésus de Nazareth et pour le contempler, le voir mourir, ressusciter, puis quelque part, durant 360 jours de l'année, on ne va plus trop comprendre pourquoi il est mort. On va le considérer comme plus important, oui, parmi les prophètes, etc., mais tout va se diluer au courant de l'année, de notre vie, de tous les jours. Et puis, à cause du travail, à cause des soucis, à cause du péché, à cause des influences de ce monde. Mais si nous sommes branchés réellement sur le vrai Jésus de Nazareth, sur la vraie réalité qu'il nous offre, nous sommes tous les jours auprès de la montagne sainte où va venir Jésus et la Jérusalem céleste. Nous sommes tous les jours dans la promesse, dans la certitude de la gloire, nous sommes tous les jours déjà héritiers. Si nous sommes héritiers, nous avons une confiance immense. Notre chemin est clair. Donc, la résurrection, c'est un héritage. Son fruit est un héritage. Prenons maintenant la première aux Corinthiens, chapitre 15. Première aux Corinthiens, chapitre 15. Si Paul a insisté, c'est le plus vieux texte, semble-t-il, avec celui de la Sainte Cène, parmi les tout premiers textes du Nouveau Testament, écrit vers les années 15, après la mort et la résurrection de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'Évangile, donc la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, Paul insiste, ne manipulez pas ce que j'ai annoncé, ni les autres apôtres, ne déformez pas, il faut le retenir tel qu'on vous l'a enseigné. Le vrai disciple n'ajoute rien à la parole de Dieu, ne retire rien. Et regardez ce que le christianisme a fait. Non seulement l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église copte, etc., mais aussi énormément de mouvances évangéliques, de mouvances protestantes ont ajouté, retranché, transformé. Vous Verset 2, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain, ça veut dire pour rien du tout, en vain, ça veut dire aussi selon votre vanité. C'est-à-dire en ayant tout déformé par votre péché. Donc, vous auriez cru dans le vide. Une foi sans puissance. Nous n'avons de puissance que dans la vérité, dit Paul. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Hors de la vérité, nous n'avons point de puissance. Donc, nous devons croire selon la vérité, selon la parole. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, l'Ancien Testament, les prophètes, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, l'Ancien Testament de nouveau, qu'il a apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il a apparu aux plus de 500 frères à la fois, donc au mont Tabor, puis près de la mer de Galilée. Dans la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, le cousin de Jésus, responsable de la première église évangélique, la première église chrétienne qui se situe à Jérusalem, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'a apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Donc, nous voyons que si Jésus est ressuscité, c'est selon les Écritures. Pourquoi ? Selon les textes que nous venons de lire dans Ésaïe, au chapitre 25, et Hébreux 12, bien sûr, qui le commente, et Apocalypse, chapitre 4 et 5. Il faut donc faire attention que nous sommes sauvés selon un plan préétabli. Nous sommes prédestinés. L'humanité est prédestinée à être sauvée. Elle n'est pas prédestinée à être condamnée et aller en enfer. Elle n'est pas prédestinée à être victime et esclave de Satan. Si l'humanité a choisi de pécher et de se rendre esclave de Satan et de souffrir selon tous les plus chers vœux de Satan, ce n'est pas sa finalité. Il faut une rédemption, une délivrance, il faut une intervention. Lorsqu'un bateau coule, on envoie un hélicoptère, on envoie des spécialistes, n'est-ce pas ? Lorsqu'un sous-marin sombre, qu'il est à 50 ou 60 mètres de profond, que les gens sont encore vivants dedans, on envoie des hommes grenouilles, on envoie des systèmes de récupération du personnel, et jamais on ne laisse quelqu'un périr si on a la possibilité de le faire. Et bien de même, Dieu le fait. Il a envoyé son Fils, il a envoyé aussi ses anges pour sauver l'humanité. Donc nous voyons qu'il y a de nombreuses personnes, plus de 500 frères, chapitre 15, verset 6, dont la plupart sont encore vivants. Donc si Jésus a accompli les Écritures, Ésaïe 53 notamment, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre vie éternelle, et donc ce n'est pas pour fonder une religion qui, avec Constantin, et plus tard avec tous les autres hommes politiques et avec beaucoup d'évêques, va devenir un prétexte à asseoir le péché, à conforter le péché sur la terre, au nom de Jésus. Ce qu'il faut dire donc, c'est que nous devons retrouver, grâce à un cadeau immérité de Dieu, grâce à un éclairage de la foi, un éclairage par le Saint-Esprit, nous devons retrouver le vrai Jésus de Nazareth. Le vrai Jésus de Nazareth est humble et le serviteur de la vie. Et il est au milieu de nous aujourd'hui. Le vrai serviteur de Dieu a aujourd'hui une œuvre formidable à faire. C'est celle de parler à nos cœurs. C'est celle de nous rappeler que nous avons un papa et qu'il faut retourner au papa. Et aussi l'œuvre de Jésus est de dire, mais moi je t'ai ouvert la porte. J'ai déchiré ce qui te séparait de Dieu, j'ai déchiré ce voile symbolisé dans le temple de Jérusalem, un voile de 9 mètres sur 11, 10 centimètres d'épais, déchiré au moment où Jésus meurt sur la croix. Eh bien, j'ai déchiré tout obstacle. Lisons la 2e aux Corinthiens, au chapitre 4. Chapitre 4, 2e aux Corinthiens, verset 2. En publiant la vérité, donc de l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Dieu. Donc c'est un message à la conscience. À la conscience, pour que chacun puisse prendre une décision, puisse être pesé lui-même, et puis après que Dieu intervienne dans sa grâce, dans sa puissance spirituelle, dans la conscience pour dire, pour sceller, pour déclarer quelque chose qui appuie ce qui a été enseigné, qui a été apporté par témoignage ou par enseignement. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, donc dans l'impossibilité d'être compris ou rejeté, il est voilé pour ceux qui périssent, donc ceux qui sont séparés de Dieu, ceux qui sont morts spirituellement. Verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, donc Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Donc les incrédules ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe en eux, ils sont manipulés par le Dieu du siècle. Et ils ne voient pas, à cause de cela, ils ne voient pas briller l'éclat, la richesse, la grandeur, la vérité de l'évangile. Et si Jésus de Nazareth a été humble, était serviteur, a toujours évité les fausses gloires, il y a quand même en lui une gloire, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Il y a en lui une gloire, c'est qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Et la gloire éternelle, bien sûr, de Christ, c'est aussi qu'il est l'image de Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, tout est écrit par lui, pour lui et en lui, et il est l'image du Dieu invisible. Et voici ce que dit Paul en 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, donc nous n'avons pas d'importance à nos propres yeux, et nous ne voulons pas nous imposer à vous. Nous ne créons pas des adeptes, nous ne sommes pas des gourous, et nous n'instaurons pas un nouveau système religieux. C'est Jésus-Christ, Seigneur, que nous prêchons. Donc le Seigneur, c'est-à-dire ce Dieu vivant qui vient sauver les hommes. Et prêchons, kérusso, proclamons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Le mot doulos, esclave ou diakonos, serviteur. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est Genèse 1.3. Hein, parce que dans Genèse 1.3, quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas bara, ce n'est pas un verbe qui montre que cette lumière est créée. Il s'agit, en Genèse 1.3, d'une lumière incréée, préexistante, une lumière éternelle, qui a pour vocation de venir éclairer tout le créé, de lui donner sa sainteté, son éclat, sa gloire. Donc la création a été faite pour la gloire de Christ, pour recevoir et être dans la gloire de Christ. Et donc c'est cela que Paul rappelle, Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc on peut dire cela, c'est vraiment le don de la grâce, de la révélation, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Faire resplendir la connaissance. Donc il y a quelque chose dans notre âme, dans notre intelligence, qui tout d'un coup s'allume, s'éclaire. Cette connaissance est pleine de lumière. Elle n'est plus obscurcie. Et il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de voile. Et qu'est-ce que nous apprenons à connaître dans cette manifestation lumineuse? C'est la gloire de Dieu sur la face de Christ. Jésus porte sur lui, sur sa face, la gloire de Dieu. Bien oui, il est le Fils, il est sans péché. Satan n'a aucune autorité sur lui. Il est la vie. Il est la manifestation plénière, il est la plénitude de Dieu. Jean l'a dit dans Jean chapitre 1, verset 1, 14 à 18. Nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils, issu du sein du Père, nous l'a révélé. Et nous portons ce trésor de Corinthiens chapitre 4, verset 7, donc cette connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, pas de cristal, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc cette lumière va briller pour les autres sur la terre. Paul le dit bien, par les apôtres, par la prédication apostolique. Mais tous ces apôtres et Paul lui-même sont considérés comme des vases de terre. Ils ne se sont pas présentés comme des vases de cristal de grand prix, mais comme des vases de terre de bas prix. Et à travers les parois obscures de leur vie, se manifeste une puissance, une gloire qui n'est pas d'eux, mais qui est de Christ. Et qui traverse toutes leurs paroles, leur façon de vivre, bien limitée, bien pauvre, et qui, dans leur faiblesse, c'est la grâce de Christ qui se manifeste aux autres. Pourquoi ? Afin que cette grande puissance, donc celle de Christ, celle d'introduire des personnes dans la vie divine, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc nous voyons bien que le modèle apostolique est un modèle de service, un ministère, mais ce n'est pas un sacrement. Ces apôtres-là ne sont pas des prêtres qui donnent un salut par des gestes et des prières. C'est le Christ en eux qui donne la vie éternelle. Donc l'Église de Jésus-Christ qui a été fondée n'est pas une Église sacramentelle. Ce n'est pas une Église au sens des prêtres de l'Ancien Testament ou des prêtres catholiques orthodoxes. Pourquoi ? Parce que il faut éviter de faire de l'Église ce qu'elle n'est pas. L'Église, c'est un rassemblement de pécheurs sauvés par grâce et qui sont des vases de terre dans lesquels est déposé un trésor inestimable, c'est Christ qui se révèle aux autres. Mais il est clair que il n'y a pas à travers le chrétien, à travers le pasteur, il n'y a pas un être semi-divin, comme un gourou, comme un nouveau sorcier, comme une partie du ciel habitant dans un être humain, une partie du ciel qui fait de cet homme un statut spécial, comme toutes les religions et tous les gourous, tous les médiateurs, les médiums veulent. Nous restons faibles et humains, et nous recevons en nous un Dieu vivant, puissant. Mais nous ne pouvons jamais affirmer que par un geste ou une prière, nous sommes des mandatés spéciaux, avec des gens uniques, au statut supérieur aux autres, qui ont un pouvoir spécial. Si nous prions, nous demandons à Dieu, au nom de Jésus-Christ, quelque chose pour les autres, mais c'est Dieu qui le donne, ce n'est pas nous. Lisons Hébreux chapitre 7, verset 21 à 25. Tandis que les Lévites sont devenus des prêtres sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, psaume 110. Jésus est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, donc Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, nous voyons bien qu'il n'y a pas d'autre prêtre que Jésus-Christ. Donc quand Cyprien de Carthage, en 365, a créé le prêtre, ce que nous trouvons bien sûr dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, l'Église copte, etc., le prêtre n'existe pas aux yeux de Dieu. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous comprenez bien pourquoi au Concile de Trente, pendant des années, il y a eu des disputes dans ce concile, parce que beaucoup de gens, jésuites, franciscains, etc., la papauté voulait supprimer l'épître aux Hébreux du canon biblique, du texte biblique, parce qu'il y avait des textes qui les dérangeaient beaucoup trop. Heureusement, les dominicains et d'autres n'ont pas cédé. C'est pour cela, verset 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, en nous approchant du Père, par Jésus. Voilà la procédure normale, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, Jésus est vivant. Nous avons un avocat auprès de Dieu, comme dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain prêtre, comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. Et vous voyez ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, au XIIe siècle, Anselme de Cantorbéry et Thomas d'Aquin ont réinventé le sacrifice de Christ sur l'autel par les paroles du prêtre, le sacrement de la Sainte de l'Eucharistie, de la messe, et pour donner la vie éternelle. Et donc la vie éternelle à ceux qui sont là, mais aussi à ceux qui sont défunts. Comme par hasard, ça a rapporté beaucoup d'argent. Et donc, tous les faux cultes qui ont été introduits dans l'histoire devraient être balayés normalement de l'Église qui est fidèle à la parole. Il arrive qu'aujourd'hui, dans les églises évangéliques et protestantes, des pasteurs prennent un statut spécial où ils apparaissent presque comme un intermédiaire obligé entre Dieu et l'homme, comme une autorité spirituelle incontournable. Ce sont des impostures. Ça fait partie de ce que j'appelle aussi le catholicisme. Le catholicisme n'est pas seulement l'institution catholique. Le catholicisme, c'est une déviation, c'est une appropriation du message chrétien par les hommes, par la chair. Pour faire de toute une série d'hommes, de leaders, des nouveaux Christ, des nouveaux médiateurs. Ce qui est tout à fait anti-biblique. Nous sommes donc assurés, chers amis, que aujourd'hui, nous avons, Hébreux chapitre 8, verset 1, nous avons un tel souverain prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, qui est ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ce médiateur est unique. Il est irremplaçable. Et ce médiateur a promis des choses nouvelles. Verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, donc dans l'intelligence, dans l'âme, dans le cœur, dans l'intériorité. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc nous voyons ici qu'il y aura une égalité de service dans la parole de Dieu. Donc, il faut savoir qu'un pasteur, ou un enseignant, quel qu'il soit, doit être considéré comme un être à part égale des autres, et pas avec un statut spécial. Et que le plan de Dieu, c'est que tous les chrétiens aient la connaissance de Dieu, que tous les chrétiens aient la connaissance de la Sainte Parole de la Bible, sans qu'il n'y ait quelqu'un qui s'estime indispensable. Seul Dieu est indispensable. Et pourquoi, chapitre 8, verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leur alliance, de leur péché. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, chers amis, il est évident que Jésus de Nazareth n'a pas demandé qu'on fasse revenir l'ancienne alliance et qu'on fasse revenir ce qui est vieilli. Ce qui doit disparaître. Il y a deux choses pour le peuple de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement du salut, de la mort, la résurrection de Jésus sur les Écritures. Deuxième chose, la révélation personnelle de Dieu aux croyants, qui alors est scellé du Saint-Esprit et enseigné par Dieu par le Saint-Esprit et par sa parole, et par les frères et sœurs dans le partage, dans la communauté de foi. Il n'y a donc plus de mon Seigneur, de Seigneur, de Père, de Saint-Père, de Très-Saint-Père, de Mère supérieure, ou de super-pasteur, du super-prédicateur. Nous avons tous entre nous un seul directeur, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons tous entre nous un seul chef, Jésus. Nous avons tous entre nous un seul maître. Ne vous faites pas appeler rabbi, Matthieu chapitre 23, verset 8. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà donc l'Église que Jésus-Christ est venu établir sur terre. Respectons le projet de notre Seigneur Jésus. Respectons sa volonté. Acceptons humblement sa parole et limitons-nous à ce que notre Seigneur a dit et a voulu. Vous savez que ce que Dieu a dit dans les dernières paroles de la Bible, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, il participera aux tribulations et ne sera pas enlevé avant les tribulations. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc, pas de vie éternelle. Pas de Christ. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte écrit dans ce livre. Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. Voilà donc les fruits véritables, les enseignements véritables de Jésus ressuscité, de Jésus mort pour nous. Voilà donc l'image de son peuple tel qu'il l'a voulu. Que Dieu vous bénisse.